Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc, on va arriver au cas bicoïde. Hein. Donc, parce que c'est un cas vraiment, vraiment intéressant. Alors voilà, je reviens sur le début du cours, sur le cas de bicoïde. Donc voilà ici un embryon de mouche. Hein. Donc, alors, comment se développe une mouche ? Donc au départ, vous avez le cytoplasme de votre œuf qui fait environ 500 microns, je l'ai dit. Et puis, vous avez une fécondation de votre mouche, vous avez les noyaux qui prolifèrent. Donc pendant toute une période, vous allez avoir une prolifération nucléaire. Et à un moment, les noyaux vont aller migrer à la surface. Ils vont aller se mettre ici. Mais il n'y a toujours pas de cellules. C'est-à-dire qu'il y a des noyaux, mais il n'y a pas de membrane. C'est ce qu'on appelle un syncytium. C'est comme dans un muscle, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de membrane qu'il n'y a pas de cellules. Je crois qu'il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas du tout comment il est organisé, le cytoplasme. C'est possible qu'autour de votre noyau, même s'il n'y a pas de membrane au sens propre, il y a quand même des structures différentes qui font que les noyaux ne sont pas forcément non isolés du noyau d'à côté. Donc, j'en sais rien. Mais il ne faut pas toujours avaler, surtout en science, tout ce qu'on nous raconte. Donc, c'est un syncytium, c'est vrai, il n'y a pas de membrane au sens strict. Et vous voyez ici que tous vos noyaux sont dans syncytium. Et puis, il y a l'avant ici et il y a l'arrière ici. Donc, et l'avant est marqué par la synthèse. Alors, il y a un messager, il y a une protéine qui s'appelle bicoïde, qui est en fait un facteur de transcription, une protéine à homédomène, donc un facteur qui normalement régule la transcription. Il ne régule pas que la transcription d'ailleurs, il régule aussi la traduction, c'est une autre affaire, on y reviendra. Et il est sous le contrôle de notre gène qui s'appelle nanos. Et surtout, dans le messager, il y a une partie en 3' UTR du messager qui permet l'ancrage dans la région antérieure. C'est-à-dire que tout le messager, vous le voyez ici en bleu. Vous voyez que le messager n'est pas dispersé le long de votre mouche. Donc le messager, il est à l'avant. Donc là où je vois du bicoïde messager, je sais que je suis à l'avant parce que mon 3' UTR est fixé à une protéine qui s'appelle Stoffen qui vient aller mettre ça à l'avant de ma mouche. Et donc ma protéine va être synthétisée ici et diffusée le long de l'axe antéro-postérieur. 500 microns. C'est gros. Hein. Et vous allez voir, il y a tout à l'heure, si on y arrive, la semaine prochaine, si on n'y arrive pas tout à l'heure, il y a un vrai problème. Donc, cela dit, j'ai un gradient et je peux calculer mon gradient le long de la longueur. Je fais 0 pour la queue et 100 pour l'avant. Hein, et je vois que j'ai une courbe exponentielle, celle que je montrais tout à l'heure, avec un module de til égal à 5, en gros. Hein. Donc, et c'est le drapeau français, hein, de nouveau, parce que je vais avoir orthodenticle. Au fond, orthodenticle, c'est OTX, c'est la molécule de l'avant. Dans n'importe quel organisme pluricellulaire, là où il y a OTD ou OTX, son orthologue chez les vertébrés, c'est l'avant. Donc vous voyez ici que pour cette concentration, je vais avoir que OTD qui va être synthétisé, mais j'ai aussi une synthèse de notre protéine qui s'appelle Hunchback. Pour les spécialistes, ils le savent, et ceux qui ne sont pas spécialistes, ça ne les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est le principe de la chose. Mais Hunchback est synthétisé juste quasiment à la moitié de l'embryon, et puis descend, voilà. Et le départ de la synthèse, la fin de la synthèse ici, est lié à une concentration seuil, hein, ici où j'arrête, en gros, de faire du Hunchback. Hein. Donc voici ici l'ARN de Hunchback. Alors ça veut dire pourquoi est-ce qu'OTD l'est plus rapidement et puis il s'arrête ? Alors il y a plusieurs explications. Une des explications, ça peut être que j'ai moins de promoteurs ou des promoteurs moins sensibles dans mon gène OTD. C'est-à-dire qu'il faut plus de bicoïdes pour faire du OTD et que Hunchback est plus facile. C'est-à-dire qu'avec moins de bicoïdes, il fait quand même encore du Hunchback. Hein. Donc là, ça vous montre l'importance de la réponse du gène. C'est-à-dire que le nombre de promoteurs que je vais avoir ou l'affinité de mon promoteur pour un facteur de transcription va faire que je vais répondre à des concentrations plus ou moins fortes. Hein. Donc ça, c'est l'explication qui est donnée. C'est que OTD est beaucoup moins sensible que Hunchback, et donc dès que je passe en dessous de T1, ben c'est fini, j'en fais plus. Alors que Hunchback, il en fait quand même encore, alors que j'ai des concentrations beaucoup plus faibles, parce que Hunchback est plus sensible, son promoteur est plus actif, et toujours actif, même quand on lui met très peu de poudre, de molécules. Donc, vous voyez ici ce qui se passe, voilà ici l'ARN de Hunchback, Vous voyez ici la protéine, du coup, de Hunchback. Et là, c'est plus tard. J'ai aussi un pic dans les régions les plus postérieures, mais ce n'est pas sous le contrôle de bicoïdes. Et puis ici, c'est aussi un pic, mais c'est lié au fait qu'à ce moment-là, j'ai un autre système qui se met en route, qui est le système zygotique. Donc, mais on ne rentrera pas là-dedans. Et tout ça se passe, si vous voulez, dans un système où j'ai toujours la même taille, mais j'ai une prolifération nucléaire, parce que mes noyaux, ils continuent à se diviser. Donc, ça se passe entre le moment où je vais avoir le 9e cycle de prolifération et le 14e cycle de prolifération. Donc, j'ai beaucoup de noyaux qui arrivent. Non seulement j'ai beaucoup de noyaux qui arrivent, mais mes noyaux, ils grossissent. Et non seulement ils grossissent, mais ils changent de position. C'est-à-dire qu'ils étaient centraux, puis ils viennent vers la surface. Et au milieu de mon 14e cycle, je commence à faire des membranes, c'est-à-dire que je commence à séparer mes noyaux.
Excuse-moi, si je commençais avec un plus grand embryon, est-ce que j'aurais plus de bicoïdes pour avoir le même module de Thiele?
Non, parce que c'est, le module de Thiele, il est sans dimension. Donc, il y a un problème sur lequel je vais arriver, c'est une très bonne question. C'est une question qui est même très ennuyeuse parce que il y a plusieurs solutions. Ou bien le bicoïde se dégrade moins vite, par exemple, c'est-à-dire que je peux aller plus loin, le garder plus longtemps, ou bien il diffuse plus vite dans mon embryon, ou bien j'en fais plus, etc. Mais en fait, on ne sait pas, parce que c'est vers ça que je voulais terminer plus ou moins, mais les derniers papiers du groupe, c'est Grégor et deux papiers de sel récents extraordinairement élégants, montrent que la constante de diffusion de bicoïdes est incompatible avec la formation d'un gradient par diffusion. Donc, si je déflore tout maintenant, on ne comprend vraiment pas comment ça se passe. Donc, mais je vais vous expliquer pourquoi ils en sont venus à regarder ça. Donc, c'est une histoire que je vous raconte. Donc, si la maîtresse vous donne la fin de l'histoire au début, je veux dire, c'est plus la peine de venir à l'école. Donc, ça commence avec Nuslan Volart, 1988. C'est elle qui découvre bicoïde, voilà, le papier de 1988, c'est Driver et Nuslan Volart. Vous savez que Nuslan Volart a eu le prix Nobel pour l'ensemble de ses travaux sur la morphogénèse de la drosophile. Et voilà ici ma protéine bicoïde, 58 000 de poids moléculaire, avec les différents stades. On voit que j'ai un pic de formation ici à ce stade-là. Bon, c'est pas. Et puis là encore, avec différents mutants. Donc vous avez des voilà le sauvage avec ma protéine. Et puis j'ai des mutants dans lesquels je n'ai pas de bicoïde. Des mutants qu'on appelle hypomorphes, où j'ai peu de bicoïdes, comme celui-là, et bon, enfin, toutes sortes de mutants. Vous pouvez peut-être retenir les noms, enfin, j'y reviendrai peut-être parce qu'ils vont nous servir peut-être tout à l'heure. Ça, c'était pour nous montrer qu'elle avait fait un bon anticorps, parce que quand on fait un anticorps contre une protéine, il faut montrer que c'est un bon anticorps, donc elle a un bon anticorps. Et là, vous pouvez voir cette manip où elle montre l'expression du gradient de bicoïde dans l'embryon à différents stades. Vous voyez ici, on voit bien que la protéine est dans les noyaux. Ça, c'est un stade assez tardif où on voit ce qu'on appelle le fourreau de la tête qui va se construire. Je reviendrai dans un instant à ce fourreau de la tête. Donc vous pouvez utiliser un certain nombre de mutants où vous ne voyez plus de protéines, où vous voyez encore de la protéine, où vous voyez très faiblement de protéines. Donc il y a toutes sortes de mutants qui permettent d'avoir des concentrations variées de ma protéine bicoïde. Alors, voici ici en fonction de la position. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Je vois mal parce que... Donc ici, c'est le gradient. Et là, elle a regardé différents types de mutants. Je prends mon sac parce que là, je ne peux pas lire comme ça. Je sais pas, j'ai laissé mon sac. Là. Parce que c'est des papiers qui ont été rescannés. C'est d'avant qu'on mette tout directement sur le site. Enfin, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on peut faire varier l'expression du mutant bicoïde en prenant des mutants plus ou moins forts de l'expression de la protéine. Voilà. Donc, de nouveau, voilà, ça ici une mouche normale, hein. Ici donc avec l'avant et l'arrière, et les différents segments peuvent être caractérisés par la forme de la cuticule, c'est-à-dire des poils qu'on peut voir sur la surface du corps. Et ça, c'est un mutant bicoïde, hein. Mais en fait, qu'il est plus petit, mais surtout qu'en fait, c'est un mutant qui a deux queues, c'est-à-dire que l'avant est transformé en arrière, parce que bien, je n'ai plus d'informations, il est plat, quoi, mon gradient de bicoïde. Et du coup, les cellules qui sont à l'avant s'imaginent qu'elles sont à l'arrière, et d'où le nom, évidemment, du mutant en bicoïde, hein, de queue. Et puis, vous avez différents types de mutants, et en particulier ici, un mutant Staufen, qui est une protéine qui permet l'ancrage de bicoïde à l'avant. Et quand vous mutez Staufen, vous n'avez plus d'ancrage à l'avant, et donc vous avez un truc plat, et de nouveau, vous n'êtes pas capable de distinguer l'avant de l'arrière. Vous avez aussi, comme vous voyez, d'autres malformations, hein, qui sont liées à la taille de la bestiole. Donc là, c'est le deuxième papier. Donc, ce qu'elle avait montré au début, c'est qu'elle était capable, hein, de mesurer son gradient, qu'elle était capable de faire des mutants dans lesquels j'avais des modifications de l'expression de ma protéine. Et ce qu'elle montre ici, en fait, c'est qu'on a quelque chose qui est relativement linéaire dans cette échelle. Donc, à quoi ça sert, voilà, mon mutant, voilà mon gradient. Là, c'est dans des systèmes, vous voyez que j'ai pratiquement plus de protéines, là, du tout. Et puis, dans ces différents mutants, j'ai des localisations un petit peu particulières de ma protéine. Donc, je peux modifier comme je veux, si vous voulez, l'expression de mon gradient de morphogène de l'avant à l'arrière, comme je veux, comme je peux, hein, pas comme je veux. Donc là, elle les a quantifiés de la façon dont elle a montré qu'elle a quantifié dans le papier précédent. Donc là, elle nous fait ces différents mutants. Donc, quand j'ai muté bicoïde, hein, je n'ai plus de tête, je n'ai plus de thorax, et j'ai une duplication de Montelson, c'est-à-dire que j'ai ma partie postérieure qui est en miroir avec la partie, la partie antérieure qui est remplacée par une partie postérieure en miroir, avec une perte des segments intermédiaires qui fait que mon embryon il a été raccourci, hein. Donc j'ai d'autres mutants qui ont des petits gradients, des gradients qui sont plats, et du coup je diminue les régions antérieures, hein, et j'augmente mes régions postérieures, c'est-à-dire que je suis tout de suite dans les régions postérieures. Si mon gradient est plat, je suis tout de suite dans des concentrations que ma cellule lit comme une concentration de type postérieur. Donc, et mon embryon se développe en accord avec cette information positionnelle, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de tête de cette façon, mais je vais étendre les régions postérieures. Donc je peux avoir différents types de mutants, et je peux aussi avoir plein de mutants. Et elle a pratiquement, à l'époque, on ne saturait pas le génome, mais elle a fait énormément de mutations qui vont donner des phénotypes de gradients de bicoïdes normaux, hein, et avec un antérieur normal. Hein, et vous allez voir pourquoi elle a fait ça. Donc, ce qu'on peut aussi faire, hein, c'est modifier le nombre de copies de bicoïdes. Hein. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, je peux faire des mutants qui vont faire que je vais avoir moins du morphogène, ou un morphogène distribué de façon différente, mais je peux aussi dire, je vais faire deux copies de bicoïdes, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que je vais augmenter la concentration de morphogène à l'avant. Et vous voyez ce qui se passe quand je fais ça, c'est que là, c'est le fourreau de la tête, hein, le head furrow, qui marque la fin de la région la plus antérieure chez la drosophile. Et vous voyez que chez une drosophile normale, hein, qui va avoir le nombre de copies, deux copies de bicoïdes, je vais avoir le fourreau qui c'est à 73% de la longueur. Hein, si là c'est 0 et là c'est 100. Mais si j'augmente progressivement le nombre de copies de mon morphogène, je vais agrandir ma tête, hein, en repoussant les segments abdominaux vers l'arrière. Hein, vous voyez ici, je toc. Et ici je vois le fourreau de la tête qui lui aussi passe les régions de 73, 65, 59, 56. Donc là, c'est magnifique quand même, ça veut dire que je suis capable vraiment de modifier mon drapeau français. C'est le drapeau français, c'est-à-dire que si j'augmente la quantité la synthèse en haut, hein, sans diminuer la dégradation, sans changer la dégradation, eh bien, je vais avoir un gradient plus pointu, et quand j'ai un gradient plus pointu, eh bien, je vais atteindre des seuils plus rapidement, et donc je vais avoir une tête qui... D'ailleurs, si vous me permettez, je vais revenir un petit peu en arrière sur un truc qui vous dit à quel point il faut faire vraiment gaffe. C'est celui-là. Dans un système comme ça, j'y pense à cause de cette histoire de quantité de morphogène. Ici, vous avez un morphogène avec vos deux effets seuil. Donc, si je suis cette ligne normale, je vais avoir ici un premier bleu, par exemple, blanc et rouge. Et maintenant, je vais réduire la diffusion. Quand je vais réduire la diffusion, qu'est-ce qui va se passer? Le premier seuil va arriver plus tard, mais le premier va arriver plus tôt. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des phénomènes qu'on peut penser comme des phénomènes... C'est contre-intuitif d'une certaine façon. Il va arriver plus tard, parce que, évidemment, comme je réduis la diffusion, je vais arriver plus tard au premier seuil, mais... Ici, je vais arriver plus tôt parce que j'aurai une concentration plus basse à un seuil. Alors qu'en fait, je vais réduire le blanc en augmentant le rouge et en augmentant le bleu en même temps. Donc, quand je modifie mon gradient de morphogène, je ne vais pas forcément avoir un décalage uniforme de mon système. Je peux très bien simplement réduire la partie entre le bleu et le rouge. Donc, j'y pense à cause de cette histoire à laquelle nous étions arrivés. Qui est celle-là. Donc là, je vais augmenter la tête, mais je ne garantis pas du tout de ce qui va se passer dans cette région au niveau de la différenciation de mes cellules. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, quand j'ai beaucoup de bicoïdes à l'avant, eh bien, je vais faire une tête beaucoup plus grande. Bon, probablement parce qu'au TD, au taux d'intégrale, va être exprimé beaucoup plus longtemps, parce que vous avez vu, au taux d'intégrale, il a besoin de beaucoup de bicoïdes pour s'exprimer. Dès que j'en perds un peu, lui s'arrête, alors qu'Hunchback, il continue. Donc, si je mets beaucoup plus de OTD, eh ben, je vais avoir, de bicoïdes, je vais avoir OTD exprimé plus loin, et OTD, comme je vous l'ai dit, c'est le gène de la tête. Et ça, c'est vrai chez tout le monde, même chez nous et chez les mouches. Donc, de nouveau, là, c'est plus ou moins la même chose. C'est le gradient de bicoïdes. Vous voyez ici que ça, c'est la situation normale. Là, il va me manquer un allèle. Et puis là, je vais en avoir plus de bicoïdes, de plus en plus de bicoïdes. Et du coup, je vais pousser vers l'arrière l'expression de mon messager. Donc là, je n'insiste pas. Donc, voilà ce que disent Driver et Nusslein Bellert dans leur discussion. Donc, et de nouveau, ils sont très très prudents. Un morphogène est une espèce particulière de facteur inducteur qui est caractérisé par l'évocation, et là de nouveau, c'est du vocabulaire de l'époque, on sent l'influence de Waddington, l'évocation de différents comportements cellulaires à différentes concentrations, voire SLAC, qui est un embryologiste britannique. Donc nos données démontrent que des différences quantitatives dans la concentration de bicoïdes le long de l'axe antéro-postérieur sont transformées en des états qualitativement différents. Donc en fait, vous transformez du quantitatif en du qualitatif, c'est-à-dire que vous avez c'est marxiste quasiment. Vous avez donc cette différence de quantité qui, à un moment donné, peut transformer en qualité parce que vous allez... Et ça va dépendre de la réponse de vos cellules, savoir si elles sont capables de répondre. Donc, historiquement, les morphogènes, pensait-on, sont des petites molécules parce que la diffusion est limitée par les membranes. Donc, c'est vrai que, historiquement, les gens pensaient que les morphogènes sont des petites molécules. D'ailleurs, un morphogène qui a été très à la mode et dont on a découvert plus tard qu'il n'était pas un morphogène, c'est l'acide rétinoïque. Très longtemps, l'acide rétinoïque a été considéré comme le morphogène de référence parce que c'est une petite, je crois que c'est un aldéhyde de vitamine A, donc ça diffuse facilement. En fait, c'est pas. Aujourd'hui, on se rend compte que les morphogènes sont des macromolécules. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des petits morphogènes. indeed, bien entendu, dans des systèmes tels que le membre du poulet, l'acide rétinoïque, ou l'AMP cyclique dans le lithiocélum, les petits peptides qui sont des activateurs de la tête, etc., sont des petites molécules qui ont, l'a-t-on dit, ou l'a-t-on rapporté, des actions morphogénétiques. Cependant, dans le blastoderme syncytial, c'est-à-dire quand je n'ai pas de membrane entre mes noyaux, comme c'est le cas dans chez la mouche, chez les embryons de mouche, eh bien, comme je n'ai pas de frontières entre cellules, qui peuvent limiter la diffusion de la protéine, alors je peux avoir quelque chose de la taille de bicoïde. Donc, ça, c'est intéressant à regarder parce que, avec évidemment 20 ans de recul, on se rend compte de parti pris dans cette histoire. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des morphogènes qu'on connaît sont des grosses molécules. Et si vous m'en croyez, les membranes ne sont pas forcément un obstacle. Bien qu'elles puissent être un obstacle, puisqu'on a discuté au début, je vous ai raconté qu'il fallait connaître vraiment la géométrie, et la géométrie même chimique du milieu extracellulaire, pour comprendre comment ces molécules pouvaient diffuser. Et c'est là que j'arrive à quelque chose qui va... Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Je vous avais dit que ce serait technique. Mais bon, on peut s'arrêter dans une petite demi-heure, ça vous va, comme ça? Si vous êtes fatigué, on peut s'arrêter, prendre un verre. Non. Donc... De toute façon, c'est libre, dans les deux sens. Donc, il n'y a que moi qui suis prisonnier ici. Donc, c'est un travail qui est un travail extraordinairement intéressant, y compris, je trouve, sur le plan de ce que c'est que la science. C'est un travail qui a été publié il n'y a pas si longtemps, en 2002. Là-dedans, il y a un postdoc qui doit être Bahram Ushmanzadeh. Il y a un prix Nobel qui s'appelle Eric Vichaus. Et il y a un grand mathématicien qui s'appelle Stanislas Leibler. Et c'est un papier qui, évidemment, c'est normal, a été publié dans Nature. Que dit ce papier? Ce papier s'attaque à une question qui est une question fondamentale, qui est la question de la robustesse. Alors, vous avez déjà vu cette photo, mais elle est plus belle. Donc, voilà mon embryon. Là, dans les noyaux à la surface, vous voyez bicoïdes, il y a aussi des bicoïdes à l'intérieur. C'est de nouveau la même courbe avec mon exponentielle décroissante de gradient de bicoïdes depuis ici le max jusqu'à 500 microns. Où, en fait, à partir d'ici, on ne voit plus grand-chose. C'est de l'ordre du bruit de fond. Donc jusque-là, tout va bien, tout le monde connaît cette histoire. Et ce qu'on peut regarder, si vous voulez, c'est la frontière de Hunchback, qui est sous le contrôle transcriptionnel de bicoïde, qui est un facteur de transcription. Et vous pouvez regarder ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction du nombre de copies de bicoïde, je vais avoir une frontière qui est de plus en plus loin. Plus j'ai de copies de bicoïde, et plus je vais repousser mon domaine d'expression de Hunchback. C'est normal, puisque... J'ai un effet seuil, toujours mon fameux drapeau français, puisque je vois tout à travers le drapeau français aujourd'hui. Donc une copie, je suis à 0,41. Dans le sauvage, deux copies, je suis à 0,49. Tout à l'heure, je vous ai montré ça pour le fourreau de la tête, c'est-à-dire pour OTD. Maintenant, je vous le montre pour Hunchback. 4 copies de bicoïde, 0,56. 6 copies de bicoïde, 0,59. D'accord ? Donc plus j'exprime de mon morphogène, et plus, évidemment, je repousse. Plus la partie antérieure est grande. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Avec, là, ils reproduisent, si vous voulez, ils reproduisent le travail de Nussa et Vollard. Le problème, il se pose ici. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, ils ont pris, une vingtaine d'embryons ou une centaine d'embryons, et ils ont mesuré le gradient de bicoïdes dans tous ces embryons. Par immunocytochimie, je prends les embryons, je les balance dans le paraformaldéhyde, je fais des trous, je mets l'anticorps, je dose ma fluorescence ou ma peroxydase et je peux mesurer mon gradient. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que ce n'est pas du tout précis. C'est tout sauf précis, c'est-à-dire que mon gradient de bicoïdes, entre mes différentes mouches prises exactement au même stade, hein, il va varier pour arriver par exemple à ce seuil-là. Hein, ça va être soit à 30% de mon embryon, entre 0 et 1, soit à 60% de mon embryon. Ça fait quand même une sacrée variation dans le morphogène. D'accord ? C'est pas sérieux d'avoir un morphogène qui varie comme ça, parce que derrière, il faut construire une mouche. Et toutes les mouches se ressemblent.
Comment on
définit le stade en fonction du nombre de divisions nucléaires, et du temps, et de la température, parce qu'évidemment, toutes ces bestioles poussent à des températures différentes. C'est-à-dire que si on le met à 21 degrés, ça va plus lentement, etc. Mais là, je ne sais plus à quel stade c'est, mais j'imagine que ça doit être au stade de 13 divisions cellulaires ou un truc comme ça. Ce qui est important de constater, c'est que là, j'ai une très grande variation, mais quand je regarde Hunchback, j'ai une toute petite variation. C'est-à-dire que bien que mon gradient soit mou, hein, l'action sur mon morphogène, lui, la réponse, elle est robuste, comme on dit. Hein. Donc ça, c'est typiquement la question posée de la robustesse. Vous voyez ici le domaine d'expression de Bicoïd. Hein, voici ici le domaine d'expression de Hunchback. Donc, et là, vous avez dans cette région entre 420 et 500 microns. Hein, comment ça se passe pour... Vous voyez que ce n'est pas du tout corrélé. Hein. Et là, vous avez votre réponse de Hunchback. Donc, comment est-ce que je peux faire quelque chose de précis avec un morphogène qui est mou, qui est vague, qui est imprécis? Alors, évidemment, il y a plusieurs solutions. On peut dire il y a autre chose, une autre molécule. Bon, d'accord. On peut dire il faut deux bicoïdes. C'est-à-dire que c'est un système coopératif. Donc ça met ma certitude au carré. S'il en faut 3, c'est encore mieux. S'il en faut 4, c'est encore plus précis. Donc on peut évidemment imaginer toutes sortes de solutions. D'ailleurs, ce qu'ont proposé ces auteurs. Et par exemple, ils font pousser les mouches à différentes températures. Hein, et on voit qu'à différentes températures, on va avoir des gradients qui vont être différents. Mais je vais toujours avoir la même position pour mon Hunchback. Donc je peux faire varier la position de Bicoïd et je vais avoir le bleu-blanc ou le blanc-rouge, si vous voulez, qui sera toujours là où il faut. Donc ça c'est problématique. Je peux aussi faire pas mal de mutations. Hein, Et globalement, je vais toujours avoir mon Hunchback qui va se trouver là où il faut. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si Hunchback était insensible au niveau de morphogène que j'ai. Et ça, c'est pas bon, hein, parce qu'on va faire des organismes tout à fait bizarres si on accepte une chose pareille. Il faut trouver un autre mécanisme. Alors, on va regarder si c'est Staufen. Staufen, c'est une protéine qui prend les messagers et qui va les ancrer là où il faut. Et Staufen va les ancrer bicoïdes. Donc évidemment, il y a des mutants de Staufen qui vont vraiment mettre le bordel, mais ils vont mettre le bordel parce que ce sont des mutants de Staufen qui empêchent l'ancrage du messager bicoïde. Donc là, ce n'est pas étonnant que j'ai du bicoïde partout. Alors du coup, effectivement, je peux avoir une variation assez importante dans Hunchback, mais moins importante que la variation que je peux avoir dans mon système bicoïde. Mais je peux aussi avoir des mutants de Staufen qui ne changent rien, c'est des mutants ailleurs dans Staufen, qui ne sont pas impliqués apparemment dans la reconnaissance du 3' UTR du messager de bicoïde, donc dans son ancrage, et je vais avoir quelque chose de plus fin à ce niveau-là, bien entendu. Donc, compliqué, vraiment. Compliqué. Mais il y a quelqu'un qui travaille pas très loin d'ici, qui s'appelle Nathalie Dostatny, qui a voulu reprendre ses manips. Donc la réponse du premier papier de Nature, du groupe Vichaus, Libler, il faut autre chose. Ou bien c'est un système coopératif, ou bien etc. Donc là, c'est Dostatny qui a repris le système. Maintenant, vous êtes familier maintenant avec la mouche, presque autant que moi, même plus, hein, je pense. Parce que vous êtes assis, donc c'est facile. voyez ici donc votre beau gradient de bicoïde, voyez ici orthodenticle, hein, la tête, ici vous aurez le futur fourreau de la tête, et puis ici vous avez votre hunchback, avant le hunchback postérieur c'est autre chose, hein, qui, avec les niveaux où ils sont bleu, blanc, rouge, hein, toujours notre problème du gradient français. Donc elle leur montre, comme ça vous pouvez le voir de nouveau, et voir, according to the Fernschlag model, the two target genes, etc. etc. Donc on est 69-2004 quand même, hein, on est toujours sur le modèle du drapeau français. Donc ce qu'elle a regardé après, c'est comment ça s'établit dans le temps. Vous voyez que tôt au cours du développement, c'est-à-dire, je ne sais pas, ça doit être, j'imagine, entre 12 divisions nucléaires, là on doit être à 14, au départ, il y a ces fuzzy là, vous voyez, c'est pas net, hein. Et puis, tout d'un coup, ça devient net, et ça, on peut calculer la netteté en regardant, faisant le rapport de ça sur ça. Et là, disons qu'il y a une netteté qui est de l'ordre de 5,8%. Enfin, bon, c'est pas très important. Pour ETD, c'est pareil. Au départ, c'est un tout petit peu comme ça. Hein? Et puis, après, c'est comme ça. Et là, ce qu'elle a regardé, c'est un gène qui fait du bleu, qui s'appelle la bêta-galactosidase, et qui est sous le contrôle de trois éléments régulateurs reconnus par bicoïde. Hein? C'est-à-dire que quand j'ai ces éléments devant un gène, ce gène est activé par bicoïde. Donc bicoïde se fixe sur le promoteur de la bêta-galactosidase et fait du bleu. Et voilà ici, de nouveau, vous avez votre expression. Et ça, de nouveau, j'ai 5,4. Et tout de suite, là, ça doit vous dire quelque chose, parce que ça veut dire que vous pouvez faire un bord avec un mini-gène qui ne répond qu'à bicoïde. Donc l'idée qu'il y a un deuxième gars qui vient aider à faire un truc sharp, pour répondre à la question pourquoi est-ce que... Elle est quand même ici pas mal éliminée parce que dans mon promoteur, je n'ai pas d'élément de réponse pour autre chose que bicoïde. Donc ça veut dire que bicoïde seul est capable de me faire un bord 5,4 qui n'est pas différent de ce que je peux voir avec un promoteur qui est le promoteur normal. Donc bicoïde suffit, entre guillemets. Alors évidemment, je peux commencer à disséquer mon bicoïde et lui retirer, par exemple, une région activatrice ici, ou deux régions activatrices, c'est-à-dire Q et C. Et puis, je peux regarder ce qui se passe. Et évidemment, tout de suite, je vois que si je modifie l'activité de mon facteur de transcription, eh bien, je vais avoir une modification très nette de la précision. Hein. Si je retire C, j'ai passé à 13,6, j'étais à 5% de précision, donc je deviens vraiment imprécis. Là, si je retire carrément les deux éléments activateurs dans mon facteur de transcription, je vais arriver à 19,6, c'est-à-dire que j'ai un hunchback qui va aller un peu n'importe où. Hein. C'est quand même très flou. Hein. Là, j'ai retiré autre chose, c'est un autre problème. Alors, on peut dire, il faut deux éléments bicoïdes. Alors là, ce qu'elle a fait, et qui est tout à fait joli aussi, enfin je trouve, hein, c'est qu'il y a un autre système chez la levure qui s'appelle GAL4, UAS-GAL4. D'accord, GAL4, c'est un facteur de transcription, et les éléments UAS, c'est les éléments qui répondent à ce facteur. Donc je peux en fait faire une mouche dans laquelle je vais mettre GAL4, imaginez que c'est bicoïde. Je vais le mettre sous le contrôle de nano s'il va être fait là où il faut et quand il faut. Et je vais lui mettre le 3' UTR de bicoïde, c'est-à-dire que le messager de GAL4, mon facteur de transcription, va être ancré exactement comme bicoïde. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir bicoïde, j'ai GAL4. Mais juste GAL4, rien d'autre. Et puis je vais mettre un lac Z, un bêta GAL, dans lequel je vais mettre des aimants de régulation régulés par GAL4 qui sont UAS. Donc j'ai un système totalement artificiel dans lequel il n'y a plus rien à voir avec bicoïde. Il n'y a plus rien à voir avec hunchback. Ce sont deux molécules complètement différentes, mais qui sont exprimées exactement comme... Enfin, en l'occurrence, GAL4 exprimé exactement comme bicoïde. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà GAL4. Hein, et puis, je vais avoir un système incroyablement précis. Hein. Donc, avec mon US, lac Z, je vais avoir un système qui va être très précis. Donc, ça veut dire qu'en fait, curieusement, toutes les explications qui étaient logique et avancée par le papier Liebler-Wischhaus ne tiennent pas parce que je n'ai pas besoin, de bicoïde, parce que là, il n'y a pas question de bicoïde. Alors, je peux avoir une dimérisation de Gal-4. C'est encore une possibilité. Donc, je vous montre. Bon, elle a fait plein de manips, elle a calculé tous les trucs. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps, c'est des calculs. Je vais arriver au point essentiel. C'est que toutes les manips qui avaient été faites jusque-là, et des manips qui étaient fondées sur. Et c'est là que c'est vraiment amusant, parce que c'est des manips qui étaient fondées sur je perméabilise mes mouches et je fais une immunocytochimie. D'accord ? Et donc, je peux quantifier avec mon anticorps combien j'ai de molécules par noyau, en gros, en mesurant la fluorescence. Donc, ce qu'elle a fait, c'est un modèle tout bête. Elle a regardé le gradient de bicoïde. Elle a dit, si j'ai fait une erreur 2 dans la mesure de ma protéine, parce que mon anticorps, il n'est pas terrible. Sur bicoïde, si je fais, vu la forme du gradient dans la bestiole normale, si je fais partout, j'ai multiplié mon truc par 2, d'accord ? Ou divisé par 2. Si ça c'est le normal, j'ai divisé par 2. Si ça c'est le normal, j'ai multiplié par 2. D'accord ? Le apparent boundary correspond à une longueur extrêmement importante. Hein ? L'erreur, qui est liée simplement au fait que j'ai un facteur 2 dans l'estimation de mon immunofluorescence. Mais si je fais la même facteur 2 dans hunchback, d'erreur, parce que là je suis dans une pente beaucoup plus grande, je vais avoir un apparent boundary tout petit. Donc, l'explication que donne cette équipe, c'est que c'est simplement un artefact de fixation et de coloration de mes anticorps, de ma mouche avec mes anticorps. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas intéressant, parce que ça, évidemment, ça adresse la question de la robustesse. Mais quand même, je vais vous mettre en face de ça, parce que il m'a fallu du temps pour comprendre l'intérêt du papier de Nathalie Dostatny. Mais quand je me suis mis à relire tous ces trucs, vous voyez, avec un petit peu de difficulté, hein, comme vous, hein, c'est facile pour personne. Mais ça, je me dis, quand même, c'est culotté. Parce qu'en face d'elle, elle a des gens qui étaient des gens quand même... bon, qui ont des médailles. Hein, il faut le reconnaître. Mais ça a attiré l'attention de nos collègues, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a fait en 2007 un petit résumé. Donc vous pouvez regarder ça, c'est intéressant. C'est le papier de Gibson dans le CEL de 2007. Ça a attiré l'attention de nos collègues au point que, donc Wischhaus en particulier, mais où ils se sont dit, bon, il faut absolument qu'on puisse mesurer vraiment sans fixer ces choses-là. Hein. Comment est-ce qu'on peut les mesurer sans les fixer ? Bon, alors, c'est toujours la même technique. Vous prenez maintenant une protéine bicoïde et la fusionnez avec une protéine fluorescente. Et donc, maintenant, vous allez regarder la diffusion de votre fluorescence in vivo, c'est-à-dire sans fixer l'animal. Voilà. Donc, vous allez voir, entre guillemets, votre protéine diffusée. Et puis, vous allez pouvoir, évidemment, après, si vous avez envie, vous allez pouvoir calculer les constantes de diffusion. Vous allez bleacher avec un laser dans un coin et vous allez voir à quelle vitesse la fluorescence réarrive, et ça vous donne une idée de la vitesse de migration de votre protéine. Donc ça vous donne accès à des mesures sur l'animal presque normal de ce qui se passe au niveau de la dynamique cellulaire. Donc quand le papier de Dostatny est sorti, évidemment ça a obligé d'une certaine façon, ou ça aurait été fait de toute façon, mais à regarder de par ces technologies ce qui se passe, Évidemment, il faut montrer que il faut retirer le bicoïde endogène si on veut faire ça, pour pas avoir plus de bicoïde, parce que si vous avez une bicoïde GFP plus de bicoïde, maintenant vous avez plus de copies, vous allez modifier votre bord. Donc, pour retirer le bicoïde endogène, il faut le remplacer par un bicoïde GFP. Il faut être sûr que le bicoïde GFP il a les mêmes activités biologiques que le bicoïde. Hein, donc ça c'est logique, mais ça a été fait et c'est pas mal parce que alors là c'est les time-lapse, hein, donc en C c'est la fluorescence de bicoïde qui a été donc analysée par microscopie de photons dans une petite boîte, hein, un truc qu'on peut mettre pour regarder de 10 sur 10 micromètres carrés le long du bord de l'œil, hein. Donc vous voyez que vous avez une augmentation de la fluorescence avec le temps, c'est normal. Et puis, là, c'est des manips, si je me souviens bien, où ils ont fait changer le... Non, là, ils ont regardé si le profil de bicoïde, le profil de bicoïde GFP était le même. Et apparemment, il est exactement le même. C'est-à-dire que la GFP ne change pas, disons, de toute façon, la diffusion, ou du moins... Diffusion, je ne dirais pas jusque-là, mais en tout cas la distribution de la protéine par rapport à la protéine endogène. Donc elles sont pareilles. Hein. Et si on change, retire la bicoïde et qu'on remet le bicoïde GFP à la place, on a une mouche parfaitement normale. Donc au fond, on a le droit de retirer bicoïde et de mettre bicoïde GFP et de regarder ce qui se passe avec le bicoïde GFP. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'on peut regarder entre deux noyaux adjacents, vous voyez, voilà, on peut regarder la fluorescence, donc on peut voir ici la fluorescence, mais les noyaux, ils se divisent. Hein. Au moment où ils se divisent, hein, le bicoïde, il fout le camp du noyau, lui. Il faut regarder au bon moment. Ou alors, il faut regarder en fonction du cycle. Alors, vous voyez ici, voilà, hein. Donc vous avez une oscillation de votre bicoïde nucléaire. Dans le bicoïde, quand le noyau se défait, il n'y en a plus. Alors, même plus une oscillation, il n'y en a plus. Et le bicoïde entre dans le cytoplasme. Lui, à chaque fois que ça descend du noyau, ça monte dans le cytoplasme. Hein, c'est normal, parce que si j'en perds d'un côté, j'en gagne de l'autre. Ça, c'est automatique. Mais ce qui est le plus, probablement le plus curieux... Hein, c'est que chaque fois que je refais un noyau, attention, parce que quand je fais un noyau, j'ai divisé, et mon noyau est plus gros. Donc j'ai augmenté le nombre de noyaux, et j'ai augmenté la taille de mes noyaux. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens toujours, à 10% près, à la concentration à laquelle je m'attends. C'est-à-dire que je vais avoir, à un point donné, un maintien de ma concentration en protéines. Donc, vous voyez ici, en D, là, c'est les profils d'intensité, hein, et tels qu'on peut les mesurer, hein, entre A et B, comme ça. Donc, il faut déplacer un tout petit peu la fenêtre. Bon, il y a forcément un petit peu d'erreur, parce que je suis obligé de rester dans le même champ, mais bon, comme j'ai deux noyaux, il faut que j'en choisisse un. Mais, grossièrement, dans la même région, eh bien, vous allez récupérer exactement la bonne quantité, hein. Donc ça, c'est... on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça marche. Hein, ça, c'est tout à fait étonnant. Hein. Et vous voyez de façon dynamique ici, hein, c'est dans les différentes phases pour mon noyau. Hein, je perds ma membrane de noyau. Et ensuite, je remonte, je refais un noyau, j'ai un réimport de bicoïdes. Et mon noyau est toujours formé. Hein, pendant que mon noyau est formé, j'ai une fuite. Hein, J'en perds environ 30%. Hein. Vous voyez ici? Et ça, c'est ça, agrandi comme ça. Hein. Je photobleach et mon noyau, il va réimporter tout de suite du bicoïde à la concentration qui correspond à celle qui aurait été. Donc en fait, mon noyau, il sait. Il sait combien il doit importer de protéines du cytoplasme pour avoir ce qu'il faut dans son nucléoplasme et pour faire l'activité qu'il faut. Donc ça, c'est très intéressant, hein, évidemment, c'est fascinant. Ça veut dire que le noyau joue un rôle actif. Hein. Ce n'est pas comme si j'avais une source de protéines que je fais glisser comme un billard, hein, à la façon du drapeau français, avec une source et un puits, et comme si les noyaux n'existaient pas, et comme si les membranes n'existaient pas. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, j'ai une activité réelle de mon noyau qui joue un rôle, hein, dans l'établissement de mon gradient. Mais honnêtement, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Hein. Alors, ça les a amenés à regarder un tout petit peu ce qui se passait au niveau de la diffusion. Hein. Et quand on a une protéine fluorescente, on peut regarder la diffusion. Hein, et pour la regarder, une façon assez simple, c'est de bleacher et puis de regarder comment la fluorescence revient. Donc là, il en fait au niveau cortical, c'est-à-dire au niveau où maintenant j'ai tous mes noyaux qui sont là sur le cortex de ma mouche, hein. Et je pulse et je regarde revenir. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai une diffusion de 0,27 plus ou moins 7 micromètres carrés par seconde. Ça ne vous dit rien, moi non plus. Mais je peux vous dire que c'est très bas. C'est très très faible. Ça veut dire qu'en fait, mon truc il diffuse très très peu à ce niveau-là. Donc je peux regarder ailleurs, hein, à différents niveaux, mais en fait, au centre, dans le cytoplasme, là où j'ai peu de noyaux, où j'ai du bicoïde, dans tous les niveaux, je n'ai jamais, si vous voulez, une diffusion qui est supérieure à quelque chose de l'ordre de 0,3 microns carrés par seconde. Ça pose un vrai problème, parce que si je voulais faire le long de mes 500 microns un vrai gradient de morphogène, je suis facilement, je dirais, un ordre de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que les constantes de diffusion de ma protéine ne rendent pas compte du mécanisme, enfin, elles doivent rendre compte du mécanisme qui permet de faire un gradient. Mais si je calcule en fonction de ma protéine là-haut et de mon exponentiel module de Thiele égale 5, le temps, 90 minutes, qu'il me faut pour faire ce gradient et la distance, la simple diffusion brownienne dont on a parlé au départ ne permet pas d'expliquer comment je fais un gradient. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Hein, évidemment, on fonctionnait sur le modèle du drapeau français, donc on pensait que c'était une diffusion de ce genre. Mais aujourd'hui, il y a forcément un élément actif. Alors on peut dire qu'il y a peut-être du transport. Peut-être que la molécule est prise et elle est transportée. Hein, balistique. D'accord. Comme il est 6 heures moins le quart, je boucle sur le début. C'est normal. Ou bien il y a quelque chose d'autre qui se passe, une modification de la dégradation, quelque chose qui demande évidemment à être étudié. L'autre point sur lequel je vais terminer et qui est important, c'est le problème de la sensibilité. C'est-à-dire que vous avez des modifications de noyaux qui sont de l'ordre de 10% entre deux noyaux. Si vous mesurez la distance, c'est 10%. Donc, est-ce qu'une cellule est capable de... Je ne sais plus, à des effets seuil, comme ça, bang, bang. Je suis à des effets subtils, c'est-à-dire, est-ce que deux cellules qui sont distantes de 8 microns, ce qui est la distance entre deux noyaux, en gros, sont capables de mesurer une différence de 10% dans un gradient de morphogène et d'y répondre de façon spécifique. Donc ça, c'est aussi une question qui est posée. Sur laquelle je reviendrai dans un cours suivant, parce que c'est une question intéressante. Hein. Ça s'appelle « Probing the limits of positional information ». Donc, je reviendrai là-dessus. Je pense que je ne vais pas m'engager là-dessus tout de suite, parce que c'est un tout petit peu compliqué. Un peu plus tard. Je veux juste vous montrer comment diffuse une molécule, hein. Vous savez comment on peut l'injecter ici et regarder sa diffusion. Ça, ce sont des molécules de dextrane avec des volumes plus ou moins variables. Et vous voyez qu'on peut, si on regarde une diffusion d'une molécule qui n'interagit pas avec quoi que ce soit dans le cytoplasme, avoir des constantes de diffusion qui, elles, hein, sont beaucoup plus importantes. Si vous voulez, normalement, si on voulait que bicoïde diffuse de façon libre, entre guillemets, comme on le pensait jusqu'à maintenant, sa constante de diffusion, elle serait, par rapport à son rayon, autour entre 15 et 20 micromètres carrés par seconde. Pour faire le gradient tel qu'on l'attend, c'est ça. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est entre 0,2 et 0,4. Donc on est 10 fois en dessous, facilement. Hein, au moins un ordre de grandeur. Si vous regardez ici, et en plus, ce n'est pas dépendant de la masse, hein, quand on prend du dextrane, vous voyez que, en gros, la diffusion diminue, évidemment, plus la masse est grande, mais pas le rayon de Stokes, vous voyez, passe de 2,3 à 9, Mais au niveau de la diffusion, là, pour un facteur 4, vous avez un facteur 2. Donc, il est très probable que notre protéine, qui se situe par là, en gros, ben, elle ne peut pas diffuser, en gros. En gros, elle ne diffuse pas, quoi. Donc, vous voyez le problème immédiatement. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux faire un gradient avec une protéine qui ne diffuse pas? Je n'ai pas la réponse. Je pense que personne n'a la réponse. Alors, on peut imaginer plusieurs mécanismes sur lesquels on pourra discuter la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ça révise pas mal de questions. Et je terminerai pour faire plaisir à mon ami Rava avec la taille, la question de la taille, qui est une question importante, Rava, je suis d'accord avec toi. Parce que les drosophiles ont différentes tailles. Il y a des petites drosophiles et il y a des grosses drosophiles. Alors, vous voyez ici, une ménogastère, c'est 485 microns. Je vous ai dit 500, c'est de ce ordre-là. Vous avez Buskii qui est 344, Sirikata 1,1. Voilà. La constante de diffusion d'un dextran de 40 kg dalton dans ces différentes drosophiles reste la même, en gros. 14, 17, 22, 20. Ce n'est pas proportionnel à la taille. Donc, mon cytoplasme, si je prends une protéine inerte ou un truc inerte, comme du dextrane, à supposer que le dextrane soit inerte, ça reste encore à discuter, c'est probable. Mais en fait, je n'ai pas de modification de la constante de diffusion par rapport à la question qui était posée au début du cours. Et pourtant, quand je regarde l'expression, voilà, deux drosophiles, une grande et une petite, vous pouvez voir, quand je regarde en fait le pattern de l'expression de mes gènes, il est parfaitement à l'échelle. Bien que je n'ai pas de modification de la diffusion. Donc, pourquoi? Comment se fait-il si j'ai une diffusion de mon bicoïde? Mais je ne suis pas sûr d'avoir une diffusion du bicoïde maintenant. J'en suis au point, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans sa verre. Mais si je supposais que j'avais une diffusion du bicoïde selon le modèle dit du drapeau français, la diffusion n'est pas différente entre une bestiole de cette taille et une bestiole de cette taille. Et pourtant, je fais les organes là où il faut les faire. J'ai une conservation de la longueur scalaire, en fait. Alors, on en reste là. Ça fait beaucoup de questions, mais ces questions, on va essayer de les aborder d'abord la semaine prochaine en réglant le problème du transport et de la diffusion des morphogènes.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.